Société avec Nick Payne.
Bonjour à tous, très heureux d'être au microphone cet avant-midi pour une autre édition de Société. Alors aujourd'hui, un sujet s'impose à nous. On aurait beau vouloir le contourner, décidément, c'est pas vraiment possible de le faire. Vous aurez deviné que nous allons jaser coronavirus. Alors je sais que ça vous fait pas changement, mais nous allons le faire à tout le moins dans la bonne humeur, je l'espère, et aussi à partir de notre angle plus politique, presque sociologique même, j'ai envie de dire. Et nous allons donc jeter un coup d'œil sur ce point de vue-là des choses, avec en studio avec nous aujourd'hui Frédéric Lapointe, bonjour.
Bonjour.
Et William Corbatly, nous sommes... Bonjour William.
Bonjour, bonjour.
Nous sommes bien sûr à deux mètres les uns des autres. Bon, vous n'avez pas apporté, Frédéric, comme cet homme italien, votre espèce de rondelle en presswood de deux mètres de diamètre qui vous empêche de toucher ou de rejoindre ou de vous approcher des gens autour de vous. Mais vous êtes néanmoins là comme un seul homme, comme William Corbatly. Merci d'être avec nous ce matin. Dans les semaines qui viennent, c'est peut-être une des dernières fois que nous sommes à quelques-uns dans le studio comme ça. Nous allons réduire même les présences ici. Donc, Radio-VM fait son effort de guerre, hein, si on peut dire. Commençons tout de suite par un sujet incontournable du point de vue politique, c'est la gestion de crise. Alors, je rappelle qu'à l'heure actuelle, là, au Québec, les bibliothèques, les musées, les théâtres, les salles de spectacle, les piscines, les spas, les saunas, les aquaparcs, imaginez, on n'ira pas aux glissades d'eau, William Corbatly, aujourd'hui, les lieux récréatifs comme les stations de ski, les centres de trampoline, les cinémas, les arcades, les centres d'entraînement, les arénas, le soccer intérieur, le zoo et j'en passe. Pour ce qui est des restaurants aux dernières nouvelles, François Legault demandait à ce qu'on fonctionne à 50 % de la capacité en espaçant les tables. Les bars et les discothèques sont désormais fermés. Bref, tout ça se produit parce qu'il y a quelqu'un à la barre. En tout cas, c'est l'impression qu'on a, qui s'appelle François Legault. Frédéric Lapointe, est-ce que vous êtes parmi ceux qui célébraient la gestion de crise de M. Legault? On a un peu la crise du verglas à l'esprit, cette belle performance à l'époque de Lucien Bouchard avec son fidèle bras droit dans la crise qui était le patron d'Hydro-Québec à l'époque, André Caillé. Aujourd'hui, c'est M. Legault avec le docteur Horacio Arruda. Est-ce que, vous êtes d'accord avec ceux qui disent que la crise est très bien gérée jusqu'ici?
Oui, il y a l'aspect communication.
Au Québec, hein,
gens,
évidemment.
Au Québec, ouais. Que les gens saluent. Mais au-delà de l'élément de communication, effectivement, qui rappelle la crise du verglas avec les points de presse quotidiens, une certaine gravité, une certaine transparence, une certaine authenticité qui n'est pas sans rappeler celle de M. Caillé et de M. Bouchard. On se souvient du col roulé, le col Caillé qui laissait entendre que les gens étaient dans l'action et non pas dans le paraître. Donc, ça, c'est réussi, mais peut-être que l'élément le plus important, c'est que la population semble se prêter de bonne grâce aux appels qui sont lancés par le politique. Bien sûr, dans un vox pop, il est toujours possible de rencontrer quelqu'un de 75 ans qui va au Tim Hortons à Trois-Rivières et qui dit « Ah non, moi, il n'est pas question que je reste chez moi et je vais aller au Tim Hortons comme si de rien n'était. »
Alors, vous avez vu ça, donc?
Il est toujours possible de voir ça. Mais il reste que la mesure du leadership n'est pas tellement dans le paraître, mais et dans le fait d'obtenir un comportement donné de la population. Et force est de constater, moi je le constate à l'Université de Montréal, que les mots d'ordre qui ont été donnés par le premier ministre du Québec et son équipe ont été suivis. Et la vraie mesure de l'efficacité, c'est celle-là.
Donc, oui, une bonne gestion de crise jusqu'ici, c'est ce que je comprends.
Oui, oui, oui.
Monsieur Legault, William Corbatly, vous êtes d'accord, vous, pour dire que les choses se passent bien de son côté? Est-ce qu'il y a un bémol? Est-ce que trouvez-vous qu'on... Tenez, je vous soumets quelque chose. Il y a en France ce docteur, ce médecin qui est professeur aussi, qui occupe un poste important là, dans le domaine de la santé, un poste de direction là, dans un hôpital, le professeur Gilbert Deré, qui lui dit que les mesures prises, là-bas, on est plus avancé que nous là, là-dedans, là, parce que la crise a commencé plus tôt, mais c'est un peu, on sent qu'on s'en va vers ça aussi au Québec. On parle de confinement total bientôt là, en France, mais on ne sait pas si ce sera le cas ici. Mais bref, le professeur Deray dit que la couverture médiatique, les points de presse quotidiens aussi, sont anxiogènes et peuvent provoquer une crise, à son avis, plus grave que la crise du virus elle-même parce que, par exemple, des gens vont se précipiter dans les urgences avec de la toux, des symptômes grippaux et vont éventuellement engorger le système, empêcher quelqu'un qui aurait un infarctus ou un autre problème d'être traité adéquatement. Donc, forme de mouvement de panique, est-ce qu'on en fait trop à l'heure de l'hypermédiatisation? Vous savez, les réseaux sociaux qui nous rejoignent et les médias traditionnels, maintenant aussi par nos téléphones cellulaires, jusque dans les moindres interstices de notre vie quotidienne. Est-ce qu'on en fait trop? Tiens, j'ai envie de vous poser la question à l'envers.
Bon, en fait, première chose, bien sûr, il faut souligner le grand effort, le très bon effort de M. Legault et le gouvernement dans la gestion de crise au Québec. Ça, il ne faut pas le nier. Là. Et si quelqu'un le nie, ça veut dire, ça veut dire qu'il n'est pas sérieux.
Alors ça, c'est bien fait, les mesures prises sont les bonnes. Oui, ça
c'est bien.
On agit au bon moment.
Oui, exact. Il montre qu'il est ferme, il montre qu'il est... il rassure la population. C'est ça ce qui est le plus fort dans les gestes du premier ministre, c'est qu'il tient des points de conférences de presse souvent, il communique très bien le message. Alors ça c'est bien, parce que toutes les autres mesures, comme Fred vient de le dire, si la population n'a pas réagir de la bonne façon, ça sert à rien de dire tout ça. Alors, c'est ça que je souligne dans les efforts de François Legault et le gouvernement de la CAQ, évidemment.
Je vous rassure, on reviendra sur le pan fédéral et Justin Trudeau. Ben, je sais que vous avez un point de vue là-dessus, puis on va en jaser pendant l'émission, on a tout le temps
pour le faire. C'est juste, mais je dois rappeler aussi, c'est que... parce qu'il y avait à un moment donné quelqu'un qui a comparé, mais là, ça nous rappelle, ça fait changement des dernières 15 années concernant la gestion des crises. Mais on n'avait pas, durant les derniers 15 ans, une telle crise.
Ni d'ailleurs exactement. Dans les 100 dernières années. ça fait une crise comme celle-là. Moi, je n'ai jamais vu ça.
Exactement.
Ans,
et si je me rappelle très bien, lors de la première crise, les inondations, là, lors de la gouvernement de Philippe Couillard, on a vu aussi dans toutes les tribunes comment Philippe Couillard a bien agi, était bien empathique. Et si on reproche son multiculturalisme, mais dans ce cas-là, il agit très bien, il est très empathique. Alors, c'est juste que je voulais souligner ça aussi.
Bien sûr. On pense aussi, oui, Frédéric Lapointe, là-dessus.
Il y a, pour reprendre l'introduction que vous faisiez, est-ce que, suivant le médecin français, il y a des effets secondaires indésirables à la surmédiatisation? Mm-hmm. Et 1998, la crise du verglas, il y a un exemple de ça. Toute transparence n'est pas vertueuse. Lorsque Pascal Nadeau, au téléjournal de 6 heures, dit la chose suivante, on est avisé que les aqueducs de Montréal connaissent une panne d'électricité, donc on a seulement pour quelques heures d'eau potable, on demande à la population d'économiser l'eau. Qu'est-ce que vous pensez qui s'est produit? Tout le monde a ouvert son robinet pour essayer de remplir un seau et il n'y avait plus de pression d'eau sur l'île de Montréal en 5 minutes. Donc, toute chose n'est pas bonne à dire, précisément parce que le comportement de panique n'est pas rationnel dans la population. Il est rationnel à l'échelle de l'individu, aller chercher de l'eau avant qu'il n'y en ait plus, mais n'est pas rationnel à l'échelle du groupe. Donc, c'est pas vrai qu'il faut toujours tout dire et faire toujours confiance à la population. Cet exemple-là de 98 était très parlant.
Alors, si la gestion de M. Legault est exemplaire ou si son équipe travaille bien, on peut penser qu'effectivement, des choses qu'on ne nous dit pas, Frédéric Lapointe, ou en tout cas, on y va très méthodiquement, étape par étape.
La réponse est oui, et il faut leur faire confiance en cette matière. Et tant mieux, les gens, le comportement de panique qui est le plus médiatisé à l'heure actuelle, c'est l'achat de papier de toilette. Oui. Alors, c'est assez bénin.
On va y revenir.
On conviendra que ça ne pose pas de problème, là, de réel problème.
On va se poser cette question-là dans quelques instants. Est-ce que ça dit quelque chose sur notre société, peut-être, cette frénésie pour faire des provisions alors qu'on est dans quand même une société d'abondance? Les représentants de l'industrie du papier et du papier hygiénique plus spécifiquement ont bien souligné qu'il n'y avait aucune pénurie à l'horizon, mais quand même, on fait des provisions. Il y a quelque chose, il y a au moins peut-être une piste
de réflexion. J'ai posté sur mon Facebook les solutions idéales. J'ai posté mon bidet et comment il y a une façon pour rincer sans nécessairement avoir besoin de papier cul.
Ah bon? J'espère que le vidéo n'est pas trop explicite quand même.
Non, c'est pas une vidéo, c'est une photo.
Et bon appétit, tout le monde. Mais alors, on vous invite à aller visiter la page de William Corbatier là-dessus. Passons à un point de vue peut-être plus critique, du calme en studio, s'il vous plaît. Il ne faut pas rire comme ça, on pourrait s'échanger gouttelettes. Il y a quelqu'un qui s'appelle Steve Fortin qui est avec nous en ligne. Bonjour, Steve Fortin.
Hey, salut, comment ça va?
Ah, très bien. Vous, ma foi, vous nous appelez en direct de l'hélicoptère TVA, ou je ne sais trop, vous semblez être sur le cellulaire.
Oui, c'est ça, je suis sur la route, pour le moment, là.
Vous êtes sur le terrain, on pourrait dire. Écoutez, Steve Fortin, on vous parle relativement peu longtemps aujourd'hui. Allons dans le vif du sujet. Vous avez publié ce matin une critique. Alors là, on passe du côté fédéral de l'action du gouvernement de Justin Trudeau sous un angle assez politique. Vous êtes revenu sur cette déclaration du ministre Duclos qui laissait entendre, d'après vous, que fermer les frontières ou toute notion là, de fermeture ou de restriction aux frontières serait de nature plus ou moins xénophobe ou intolérante et qu'il fallait éviter ce genre de réflexion et de d'opportunités-là et que ça témoignait d'une posture idéologique dangereuse, d'après vous, du gouvernement Trudeau à ce moment-ci. C'est pas un discours qu'on n'a pas entendu déjà dans les derniers jours. Hein? On fait état un peu de ces dissensions entre ceux qui disent « fermons les frontières », d'autres qui disent « bon, allez, c'est peut-être un peu excessif ». En tous les cas, le gouvernement Trudeau annonce tout de même ce matin-là que les vols internationaux seront restreints, c'est-à-dire que seulement Montréal, Vancouver et deux autres villes au Canada pourront recevoir de tels vols. Ça vous satisfait, ça, ou pas?
Moi, j'arrive pas à comprendre comment ça pouvait être pertinent à ce moment-ci d'en arriver par un ministre important quand même au sein du cabinet de Justin Trudeau de dire plutôt que de blâmer les étrangers, il faut. Tu sais, moi, là, cette espèce de petite assignation-là, blâmer les étrangers, ça m'a fait penser à quand Philippe Couillard avait dit à l'Assemblée nationale, à François Legault, qui n'avait fait que demander, peut-être qu'on pourrait penser à réduire les seuils d'immigration en commission parlementaire, alors que c'est son travail de débattre de ça. Il lui avait dit, on sait bien, là, le chef de la CAQ souffre sur les braises de l'intolérance. Tu sais, moi, à un moment donné, j'en ai assez de ça. Dans le contexte où on est présentement, de penser que ce serait une bonne chose d'avoir un contrôle plus restrictif de ce qui se passe à la frontière. Je pense que tout le monde est assez d'accord avec ça au Québec. On est quand même rendu à un point où la mairesse de Montréal en est, contrainte à envoyer des gens faire la job du fédéral à l'aéroport de sa ville.
Nous apprenait hier que Mme Plante allait faire cette sortie ce matin, oui. Notamment parce que la ville est à couteau tiré avec Ottawa, qui n'agit pas assez vite à son goût, hein, c'est ça.
Pour une raison, là, je ne sais pas, j'avais été quand même assez critique de ce qui se passait à l'aéroport Trudeau. J'ai deux personnes qui sont proches de moi, qui font partie de mon entourage, qui arrivaient d'Europe, qui m'ont écrit, c'est incroyable. Ça s'est passé dans la soirée de samedi à dimanche. J'arrive à Trudeau, ils m'écrivent, écoute, il n'y a aucun bon sens. Il n'y avait absolument rien. Il arrive ici, aucune mention de confinement, rien du tout, comme si de rien n'était. Et tout à coup, quand j'ai publié ça, des gens m'envoyaient des petites vidéos qu'ils faisaient à l'aéroport pour me montrer, voici comment ça se passe. À un moment donné, là, on se dit, plus on attend, plus ça va être dangereux. Je ne pouvais pas plus. C'est à partir de témoignages comme ceux-là qu'on peut vérifier, de gens à qui on peut avoir confiance. Des journalistes l'ont fait aussi. Un journaliste d'RDS qui a publié quelque chose sur sa page Facebook aussi, il disait, mais je comprends pas, ça n'a pas de bon sens. Ben oui, à un moment donné, il a fallu qu'on prenne le relais du fédéral en quelque part parce que on faisait absolument rien. Il ne se passait rien à Montréal-Trudeau alors qu'on demandait aux Québécois d'être le plus restrictif possible dans leur confinement puis de respecter ces notions-là.
Je le précise, là, au bénéfice de nos auditeurs, nous allons parler à quelqu'un il y a quelques instants qui est arrivé donc hier ou avant-hier à Montréal et qui est en confinement. Farouk Karim sera avec nous. Il va nous raconter son expérience à lui là-dessus. Donc, trop peu de réactivité, d'après vous, de la part du gouvernement Trudeau. Est-ce que cette sorte de... Au fond, là, pour revenir au point de vue idéologique sur lequel nous avons abordé l'entrevue, il y a comme une sorte de... On a l'impression d'une dissension hein, au sein de ce cabinet, ou en tout cas d'un peut-être un manque de cohésion, si on veut.
Bien, on dirait que dès que ça touche les frontières, il y a peut-être une certaine posture idéologique ici, dans le sens où, d'après moi, là, il y a des gens au sein de ce gouvernement-là qui sont allergiques à toute notion d'entrave à la frontière. Puis là, dans ce cas-ci, on n'est pas dans une situation ordinaire. Je veux bien qu'on en débatte dans d'autres contextes, mais là, en ce moment même, on n'en est plus là. Il faut agir, puis il faut agir en dehors des postulats idéologiques habituels. Il faut qu'on soit... La scientifique en chef du gouvernement fédéral a elle-même avoué en entrevue qu'il fallait recourir le plus vite possible à des mesures de restriction à la frontière. À un moment donné, il faut écouter ces gens-là. Puis je trouve personnellement que c'était très mal avisé à ce moment-ci pour le ministre Duclos d'arriver puis de faire cette déclaration-là.
Merci beaucoup, Steve Fortin. On va vous laisser aller vous calmer nous allons discuter de ça avec nos invités en studio. Merci, protégez-vous, restez à 2 mètres.
Il faut écouter les consignes et... Ça, c'est un texte critique, mais en général, il faut dire que nos politiciens font très, très bien ça.
Ben, c'est sûrement pas un des temps faciles pour eux non plus. Hein? Merci, merci Steve Fortin. On leur passe le message. On sait qu'ils nous écoutent. À la prochaine. Salut. William Corbatly, le gouvernement Trudeau. Vous avez publié, vous, ce matin, là-dessus, pour dire « Respirons par le nez, c'est plus nuancé que ça. Ce gouvernement a agi. » Vous avez relayé la publication de quelqu'un d'autre là-dessus. Vous citiez là, des actions qui ont été prises par le gouvernement Trudeau jusqu'à maintenant. Mais c'est vrai, vous ne trouvez pas quand même qu'on sent moins le capitaine à la barre. Là. Il y a une espèce de décalage impressionnant entre l'action de François Legault et celle de Justin Trudeau là-dessus.
Oui,
au point de vue de l'image, au moins. Là.
Je veux te dire quelque chose. S'il y a un problème dans les actions du fédéral, c'est dans la communication. Ça, il faut l'avouer. Si je le compare à François Legault, il ne fait pas assez de points de presse. Je ne sais pas si les médias ici couvrent la même chose au Québec, couvrent le fédéral de la même façon que le provincial. Je ne sais pas si on donne vraiment la bonne couverture, mais c'est sûr et certain...
On peut imaginer qu'à RDI, par exemple, on le saurait, là, si Justin Trudeau faisait des points de presse quotidiens.
Exactement. Alors, c'est ça que je dis, oui, il y a un problème de communication. Mais dire qu'il n'y avait pas des mesures qui ont été prises, mais ça, c'est royalement faux. C'est vraiment depuis le 3 mars, en fait, il y a beaucoup, tous ces consignes que M. Legault a commencé à dire à la population sont pas mal inspirées de ce qui est publié le 3 mars sur le site web du fédéral.
Ça fait déjà un moment, donc. Et la question des frontières,
voilà.
Parce que là, il y a un débat idéologique et M. Legault, dans chacune de ses sorties récentes, martèle, il revient sur cette question-là. Il dit « j'ai un différend », ce sont ses mots, avec Justin Trudeau sur la question des frontières. Je veux restreindre à ce point de vue-là, puis ça ne se produit toujours pas. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, vous?
Bon,
pas avec le constat, mais avec la volonté de...
C'est sûr et certain qu'il faut faire quelque chose avec les frontières. Mais c'est juste la façon, comment on pose la question. Mon seul problème, par exemple, dans la chronique de Steve Fortin, c'est que c'est comme le monsieur Duclos a dit que vous êtes raciste. Alors, ça ne veut pas dire que si quelqu'un dit que le problème c'est l'étranger, la menace des étrangers, ça veut dire que cette personne
est
raciste.
C'est ça, les mots de monsieur Duclos. Il ne faut pas blâmer les étrangers.
C'est ça. Alors là, on est arrivé à un constat. Si quelqu'un blâme les étrangers, alors c'est un raciste. C'est comme monsieur Duclos a dit que vous êtes raciste si vous blâmez les étrangers. C'est ça mon problème actuel. Alors,
disons qu'on pourrait penser à une évocation de xénophobie à la limite.
Même pas, parce que vous
projetez les problèmes sur l'étranger. Hein? C'est un peu...
Mais encore une fois, c'est qui sont ces étrangers-là? La majorité écrasante des cas qui sont arrivés par l'aéroport, par exemple,
ce sont
des Canadiens, des Québécois, ils sont revenus chez eux. Alors, c'est pour cela qu'il faut nuancer le discours. C'est pas qu'il ne faut pas fermer, même, je ne suis pas contre la fermeture complète des frontières, mais aucunement. Il faut qu'on se protège, mais il faut le faire avec sérénité et aussi avec sans tomber dans enfermer les frontières, comme Monsieur Legault, la façon comment il fait là, mais ça, c'est sa façon de le faire, et avec tout son bagage idéologique de la CAQ, etc. On peut pas ne pas lier ça si on veut aussi.
Ah, vous êtes
là,
en train de dire que c'est pas neutre chez François Legault non plus.
Je peux aller là-bas, ouais. Mais je le fais pas parce que. Mm-hmm. On doit être nuancé, on doit être responsable et soyons tous solidaires. Toute personne fait son meilleur pour le meilleur de la population.
Frédéric Lapointe, sur la gestion du gouvernement Trudeau, puis après peut-être plus largement sur ce espèce de conflit mondialiste, nationaliste qui ressort, hein, même à travers cette crise, donc ceux qui disent fermons les frontières, ceux qui disent même dans un autre ordre d'idées au Québec, qui disent voyez, nous avons encore la preuve que le gouvernement fédéral est trop. Monsieur Legault devrait pouvoir faire tout ce qu'il souhaite et nous attendons comme ça, un deuxième palier de gouvernement trop pesant, trop lourd, trop compliqué. On ira peut-être là-dessus dans un second temps, mais d'abord, la gestion de cette crise par le gouvernement Trudeau. Êtes-vous d'accord avec les critiques, vous, ou plutôt du côté de William Corbatly là-dessus?
Je suis d'accord qu'il y a dans le gouvernement Trudeau une plus grande réserve à utiliser des mesures extraordinaires qui pourraient être interprété par la population ou nourrir un sentiment xénophobe dans la population. Je pense que cette réserve-là, elle est pas juste probable. Là, on l'entend là, dans les commentaires, ça se comprend. Un autre gouvernement aurait peut-être pas eu la même réserve. Mais au-delà de l'élément idéologique, si je donne, si je prête bonne foi là, aux acteurs, il est peut-être vrai que le gouvernement fédéral est moins équipé, a moins de plans, a moins de réflexes pour entreprendre de façon extraordinaire et à l'échelle de ce très, peut-être trop grand pays, des mesures dans des très, très courts délais. Hein, les gens...
Est-ce que c'est son rôle, en fait?
Peut-être que ce n'est pas le rôle du fédéral, mais les aéroports sont de juridiction fédérale. Alors, j'imagine que ce ne sont pas les autorités portuaires qui vont se mettre à importuner les voyageurs ou à rentrer dans leur vie privée, à leur imposer des quarantaines, à leur imposer des tests, à réquisitionner les hôtels autour des aéroports pour faire transiter les gens qui arrivent pendant 48 heures dans les hôtels. Il y a toutes sortes de choses extraordinaires qui sont possibles d'imaginer et on n'est pas capable de pointer du doigt aucune de ces mesures extraordinaires de la part du gouvernement Trudeau. Donc, la population ne le trouve pas très volontariste au-delà du fait que M. Trudeau fasse ou pas des points de presse quotidiens. Et ce que j'entends de plus en plus, c'est que cette crise-là nous rappelle c'est quoi au juste un État. Hein? C'est quoi au juste la souveraineté, la légitimité d'un État. C'est peut-être pas tellement le mode de scrutin. C'est peut-être la capacité de contrôler les frontières de façon effective. C'est peut-être la capacité de protéger les gens contre des dangers. Depuis des millénaires, les dirigeants politiques des communautés humaines ont pour principale fonction de protéger les gens contre les épidémies, les intempéries, les armées étrangères. Bon, et là, ben, manifestement, le Canada semble faillir à la tâche, du moins du point de vue d'une partie de la population importante au Québec.
En tout cas, il fait un choix. Il fait le choix de restreindre jusqu'à un certain point, mais pas complètement. Là, on a vu avec les décisions ce matin. D'ailleurs, vous faites bien de dire que M. Trudeau fait des points de presse quotidiens. J'ai peut-être laissé entendre le contraire en jasant avec William. Non, c'est plutôt qu'on n'entend pas tellement ce qu'il dit dans ses points de presse. Hein, c'est un peu ça. Où on a l'impression qu'il ne dit pas grand-chose. On va y revenir parce que... en fait, on reste sur le même sujet. La mairesse Valérie Plante, ce matin, annonçait donc certaines mesures visant à envoyer des gens de la santé publique, en fait, dans les aéroports, à Montréal, à Dorval, à Pierre-Éliott Trudeau, devrais-je dire, pour sensibiliser, aiguiller, essayer de prendre un peu le contrôle de la situation parce qu'on s'impatiente, peut-être, en tout cas, c'est ce qu'on dit dans le journal de la presse, de l'inaction, devant l'inaction présumée d'Ottawa. On a parlé aussi du gouvernement Legault qui pourrait prendre des actions comme ça qui sont un peu dans les champs de compétences fédéraux pour court-circuiter, pour aller plus vite. Il y a quelqu'un qui est au bout du fil, Farouk Karim, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes revenu de l'île de la Réunion récemment, tout récemment en fait, et vous êtes en quarantaine, en quatorzaine, hein? Vous êtes confiné chez vous pour 14 jours. Vous êtes en Ontario, je crois.
Oui, ben j'habite à Gatineau, mais je travaille à Ottawa.
Pardon, oui, c'est ça, Gatineau.
Donc, moi, je suis Parlant de frontières, je suis sur la frontière.
Oui, oui, vous êtes comme Sarah Palin. Vous voyez la Russie juste par votre cour. Mais ce n'est pas la Russie, c'est le Canada dans votre cas. Le Canada, le ROC, le Canada hors Québec. Commençons par votre itinéraire, votre expérience. Est-ce que vous qui êtes revenu, qui êtes passé à travers le tamis, si on veut, est-ce que vous avez, trouvez-vous que les mesures étaient insuffisantes, qu'on vous a mal informé? Comment ça s'est passé pour vous?
Disons que heureusement que je m'informe moi-même, parce que si c'était juste des agents de douane, je ne saurais rien. C'est-à-dire que moi, l'histoire de l'isolation préventive, je l'ai faite par moi-même. J'ai contacté mes employeurs même la semaine dernière, prévoyant mon retour et voyant ce qui se passe au pays. Donc j'ai fait ces démarches-là. Puis le type d'emploi que j'ai permet, donc en gros, je travaille devant un ordinateur, donc je peux travailler pas mal n'importe où, incluant chez moi. Donc j'ai fait ça. Et après le voyage était 5 aéroports, 3 avions, 36 heures de vol. Je suis parti jeudi matin de l'île de la Réunion, heure locale. Je suis arrivé heure locale ici au pays vendredi chez nous à 10 heures le soir. Et parmi les 5 aéroports que j'ai faits, incluant Toronto, qui était l'entrée pour moi au pays, à part le fait de me demander si j'étais allé dans une des 4 zones affectées, donc la Chine, la province de la Chine, l'Italie, l'Iran et puis la Corée du Sud, à part cela, rien d'autre. C'était d'ailleurs la cohue à Pearson, Toronto. Je pense que les gens ont vu pendant le week-end aussi les photos de ce qui se passe à l'aéroport Pearson.
En effet. Avez-vous noté une différence entre Pearson et les aéroports à l'étranger par lesquels vous êtes passé là-dessus?
Bon, c'est que il y a quelques parenthèses à faire. C'est-à-dire que la plupart des aéroports que j'ai pris, je sortais d'une région, donc je peux comprendre que les questions sont pas nécessairement les mêmes que rentrer dans une région. Le seul comparable que je peux avoir, c'est quand je suis rentré sur le territoire métropolitain français. Donc, moi, j'étais à l'île de la Réunion, donc dans l'océan Indien, mais qui est quand même la France, là, pour que les gens comprennent.
Voilà.
Mais bon, ils appellent ça la métropole, ce qu'on appelle la France, nous. Quand je suis arrivé à Paris, aéroport Orly, c'est la première fois que je rentrais sur le territoire métropolitain français, qui est un endroit où il y a des cas, où ça commençait à exploser, disons. Aucune question de ce que je me sens, évidemment pas de prise de température, pas de personne de la santé publique, même pas une question de savoir si je me sentais bien ou pas.
C'est intéressant de savoir ça. Donc, Ottawa ne serait pas seul à pas être si proactif que ça dans les aéroports. En tout cas, au moment où vous êtes passé, vous.
Exact. Ouais. Donc, la situation évolue. Là. Ça, c'était vendredi dernier, donc, disons. En même temps, il y a des mesures à prendre, je crois, aux frontières, mais il faut comprendre qu'il faut surtout donner l'information aux gens, je crois. C'est-à-dire qu'on ne va pas mettre un policier sur chaque maison pour s'assurer que les gens restent en quarantaine. Mais il faut surtout informer les gens que vous devez le faire. Le premier ministre Legault l'a fait il y a quelques jours, vous demandez à tous les gens qui revenaient de le faire volontairement et puis les employés de l'État de façon obligatoire. Mais cette information-là, à la douane canadienne en ce moment, en tout cas, quand moi je suis passé vendredi, elle n'est pas donnée.
Parlez-nous maintenant du point de vue, sortons de votre expérience personnelle, parlons de ce qui se passe au Canada. Vous êtes un observateur fin de ce pays. Comment ça se passe hors Québec? Est-ce qu'on a la même perception mitigée de la gestion de crise du gouvernement Trudeau à ce moment-ci?
Oui, définitivement. D'ailleurs, les gouvernements provinciaux commencent à prendre, si c'est pas déjà fait, dans le cas de M. Legault, ça fait déjà quelques jours qu'il a pris le lead dans les champs de juridiction qu'il a. Mais j'ai vu ce matin le premier ministre Albertin Kenny qui va aussi envoyer des renforts aux aéroports, donc d'Edmonton et de Calgary. J'imagine parce qu'il s'impatiente d'une décision du fédéral. Je vois que la mairesse de Montréal, Mme Plante aussi, envoie des troupes à l'aéroport de Montréal. Donc, c'est pas seulement québécois, là. Il y a une impatience grandissante par rapport au manque de muscles, disons, dans les réactions du gouvernement fédéral. Pour être juste, là, dans ce cas-ci, il n'y a pas de réponse, et c'est pas exact, hein, tout ça. Donc, je crois que M. Trudeau joue trop conservateur, petit C, par rapport aux événements, tandis que M. Legault, pour faire un comparatif, est beaucoup plus libéral, petit L, en termes de mesures. Et je crois que dans ce genre de situation, évidemment, c'est c'est un peu, on est dans des situations extrêmes là. Je crois qu'il faudrait mieux être beaucoup plus, dans nos beaucoup plus proactif dans nos mesures qu'être prudent. Je veux dire, il n'y a personne qui va reprocher aux gens à nos gouvernements d'être proactifs dans ces temps-ci. Là.
Sauf peut-être ceux qui craignent une panique. En tout cas, merci beaucoup, Farouk Karim, d'avoir témoigné pour nous aujourd'hui. Puis on vous reparle très bientôt. Bon confinement.
Oui, juste en terminant, si je peux, il y a une bombe à retardement qui s'en vient. Elle est américaine. Et celle-là, en termes de nombre, là, ça va être extrêmement nombreux. Donc, à surveiller. Peut-être que c'est un enjeu aussi au niveau de la frontière. Et c'est pour ça que M. Trudeau attend un peu de voir qu'est-ce qui se passe. Parce qu'il va y avoir des centaines de milliers, sinon de millions d'Américains qui vont être infectés.
En effet.
Et qu'est-ce qu'ils font, avec leur système de santé? Est-ce qu'ils traversent pour venir pour avoir de l'aide, etc.? Donc, ça, c'est à surveiller.
Oui, puis évidemment, j'imagine qu'on craint au Canada une décision de notre part qui serait plus ou moins unilatérale, qui brusquerait l'orgueil de M. Trump et qui pourrait avoir des conséquences économiques importantes.
Exact. Donc, à voir tout ça. De toute façon, c'est heure en heure. Là, on va surveiller ça.
Alors, rappelez-nous s'il se passe quelque chose. Merci beaucoup, Farouk Karim.
Merci.
Sinon, on parle bientôt. Ennuyez-vous pas trop. Merci.
Ben non, Netflix est là.
Ah oui, c'est bon. À la prochaine. Salut.
Au revoir.
Frédéric Lapointe, j'ai perdu le fil de mon idée. Le gouvernement Trudeau, on conclut là-dessus. Pensez-vous qu'on va agir davantage dans les prochains jours?
Oh, je pense que leurs contraintes sont difficiles. Farouk Karim l'évoquait, la susceptibilité du gouvernement américain, c'est pas rien effectivement. Je pense qu'on va se rendre compte que lorsqu'on riait des Américains qui disaient construisez un mur, y compris au nord. Puis on les regardait comme si ces gens-là disaient encore une fois que la Terre était plate. Là, on va peut-être trouver que notre frontière terrestre avec les États-Unis est un inconvénient dans une situation de pandémie. Là.
Une immense frontière. Comment mobiliser les agents qu'il faudrait pour fermer tout ça d'un bout à l'autre? C'est absurde.
Il est possible que, encore une fois, les gouvernements provinciaux ayant des effectifs peut-être plus mobilisables, plus nombreux, une certaine expertise en réponse sur le terrain soient mis à contribution également au niveau des contrôles sanitaires au niveau de la province. Vous savez, lorsqu'un État faillit à sa tâche, il y a des entités subétatiques qui prennent le relais. Je ne vous dis pas que c'est similaire, là, mais lorsque l'État irakien a été incapable d'arrêter Daesh en Irak, ben les Kurdes ou le semi-État kurde a pris le relais pour protéger la population. Donc, je pense qu'il faut que les choses se fassent et que, transitoirement, du moins, les limites des responsabilités des uns et des autres, ben, on ne fera pas une conférence constitutionnelle pour en convenir. Là.
Retournons du côté politique, William Corbatly. En terminant, après ça, nous allons faire un petit saut en France, mais on revient ici. Est-ce qu'il n'y a pas une espèce d'aubaine? Hein, je parle du strict point de vue politique et de l'image pour François Legault en ce moment, qui déjà est un peu seul sur la patinoire québécoise depuis le début de son mandat, pas vraiment chef d'opposition fort, crédible, et on voit que c'est très payant cette situation-là pour François Legault, qui n'a pas l'espèce de contrepoids habituel devant lui, hein, pour amener des gens à remettre un peu plus en question son travail. Et là, aujourd'hui, cette crise qui lui permet de jouer le rôle de Lucien Bouchard dans la crise du verglas, à merveille, d'ailleurs, il est très bon, il faut le dire. Ça va très bien pour François Legault, non? Dans ça, on souhaite de mal à personne, mais c'est une sorte de d'aubaine, entre guillemets, pour M. Legault, cette situation-là.
Bon, regarde, je le dis.
Je sais que c'est un peu cynique comme question, mais la question se pose quand même.
Et c'est pour cela que je veux pas te répondre à ta question, bon. Parce que je veux pas, dans le sens, je veux répondre, mais je veux pas rentrer là-dedans parce que faut pas oublier que M. Legault et les autres chefs sont tous solidaires ensemble. Je pense que c'est un bon message pour tous les Québécois. Alors
même s'il y avait en ce moment une opposition forte.
Il n'y a pas un enjeu pour s'opposer, hein? C'est un enjeu où tout le monde doit les décisions sont prises, je pense, en consensus, à l'unanimité. Alors, il n'y a pas lieu d'opposition ici pour dire s'il y a une opposition ou non. Est-ce qu'il va en bénéficier? Bon, c'est sûr et certain, mais encore une fois, rappelons-nous que François Legault, dans cette crise-là, il ne prend pas les décisions tout seul. Il est en réunion quotidienne avec les autres chefs par exemple. Mais j'ai une solution peut-être qu'on peut, je ne sais pas si à la fin on peut dire des recommandations politiques ou bien maintenant, je ne sais pas.
Alors, parfait. Concluons parce que quelqu'un nous attend. On va revenir là-dessus. Gardez votre souffle. William Corbatley a des propositions politiques à nous faire. Donc, merci de ne pas être embarqué dans ma question cynique, mais je vais y répondre moi-même. C'est vrai que ça va bien pour François Legault. Je trouve ces temps-ci. Et bon, espérons qu'on n'ait pas besoin de crise comme celle-là en politique, bien sûr, pour se faire du capital politique. Allons tout de suite de l'autre côté de l'Atlantique, puisqu'il y a là-bas un peuple français qui nous précède hein, dans l'expérience de la relation avec ce coronavirus, avec la COVID-19, pour nommer la maladie comme on la nomme. Vous le savez, la France compose depuis plus longtemps que nous, là, avec une éclosion importante du virus, et ça sent désormais là-bas le confinement. Alors, un peu comme en Italie, les Français qui déjà ont vu les restaurants fermés, les terrasses. Imaginez, c'est assez antinomique. Déjà, à Paris, par exemple, à ce temps-ci de la saison, les belles journées, il y a normalement des gens en terrasse, hein, beaucoup. Et là, tout le monde est confiné chez lui, comme notre interlocuteur, Nicolas Vidal, à Paris. Bonjour, Nicolas Vidal.
Bonjour, Nick Pay. Comment allez-vous à Montréal?
Ah, ben on se maintient ici, hein, vous savez, ici, on est habitué à être confiné dans nos quartiers intérieurs plus longtemps que vous pendant tout l'hiver. Donc, pour le moment, on en paie moins le prix, si j'ose dire, mais c'est quand même un état de crise sanitaire ici. Là, le gouvernement du Québec a déclaré l'urgence sanitaire ou la crise sanitaire. Je ne me souviens pas de la dénomination exacte, mais c'est une première dans l'histoire, imaginez. Mais chez vous, dites-moi, est-ce que ces rumeurs de confinement se confirment?
Ben, on a l'impression, effectivement, qu'on est ce soir déjà, pour information, le président de la République prendra la parole pour la seconde fois. Il a pris la parole jeudi dernier. Le Premier ministre, à son tour, a pris la parole samedi. Et ce soir, on a appris assez tôt dans la matinée que Emmanuel Macron va prendre à nouveau la parole ce soir à 20h pour annoncer aux Français des mesures beaucoup plus drastiques que celles qui sont mises actuellement en cours. Vous l'avez évoqué, hein, Nick, hein, la fermeture des bars, des restos, des boîtes de nuit, tout ce qui compose finalement les commerces non essentiels. Voilà, comprenez pour l'essentiel alimentaire et santé. Donc on est actuellement en train de faire ce que fait l'Italie et est-ce que dans quelques heures, même pas, ici il est 16h30 à Paris, on attend impatiemment, ou du moins fébrilement, on va dire, hein, sans mauvais jeu de mots, l'allocution du chef de l'État. Deuxième allocution ce lendemain, hein, en espace de même pas d'une semaine. Donc, combien vous dire que la crise est grave, ici, sanitaire, et que les gens s'inquiètent de plus en plus, et surtout, hein, les spécialistes commencent maintenant, les médecins, les chefs de service, les professeurs commencent à, depuis quelques jours déjà, même quelques dizaines de jours, crier à l'alerte sanitaire absolue. Hein, voilà. Donc, on est ici, je ne vous cache pas, et il se passe quelque chose d'assez étrange à Paris, depuis hier, et nous, on l'a constaté, d'ailleurs, chez nous, en face, les voisins, des Parisiens sont en train de fuir Paris en voiture, en train, pour aller regagner des régions, somme toute, peut-être plus tranquilles, mais ces gens sont en train, c'est un exode aujourd'hui à Paris, où les gens commencent à prendre le train et la voiture, voilà, pour essayer de sortir de Paris, et vous savez bien, ils ont peur aujourd'hui du confinement total, hein. Donc ça, c'est assez inquiétant. On ne sait pas trop à quoi s'attendre. On parle de l'armée qui pourrait venir délimiter quartier par quartier. Alors là, c'est des supputations que je vous donne, hein, parce que rien n'est officiel aujourd'hui. C'est un bruit qui court depuis hier fin d'après-midi. Alors, la porte-parole du gouvernement a démenti apparemment ce matin, mais d'autres personnes du gouvernement auraient laissé entendre qu'un confinement total serait envisagé et mis en place. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Édouard Philippe et l'exécutif, très sincèrement, sont en retard sur la crise sanitaire qui se joue en France. Ils ont, on va dire aussi que l'exécutif, notamment par le porte-parole, la porte-parole Sibeth Ndiaye, avait eu des mots extrêmement condescendants envers l'Italie. Il y a une grosse semaine, elle avait déclaré que les Italiens n'avaient pas pris les bonnes mesures pour endiguer l'épidémie. Force est de constater qu'aujourd'hui, nous nous dirigeons droit devant, on nous claque son nom et nous allons droit dans un mur. avec des urgences dans le Grand Est. Je parle de Strasbourg, je parle de Mulhouse. Là, on a des témoignages de chefs de service, d'infirmières et de corps hospitaliers qui sont totalement submergés par les arrivées. Et vous savez, on parle de camps confirmés en France. Il faut savoir que ça fait déjà 2 ou 3 semaines qu'on ne dépiste plus personne. Nous-mêmes, nous ne sommes pas dépistés. Voilà, nous sommes confinés actuellement et nous ne sommes pas dépistés. Donc, nous ne savons pas si nous sommes porteurs finalement de la maladie. Donc, quand on dit cas confirmé en France, c'est quelqu'un qui présente des troubles assez graves, ce qu'on appelle une dégradation, hein, des complications médicales. Donc, c'est ça les cas confirmés. Donc, vous voyez qu'on est déjà...
C'est pas à travers le test, là, si on veut. Dites-moi, à travers tout ça, Nicolas Vidal, oui. Est quand même une batterie de mesures parfois costaudes. Oui. Le gouvernement a décidé de laisser en vigueur, si on veut, le premier tour des élections municipales. Ça a suscité beaucoup de critiques. Ces élections ont eu lieu hier, donc d'ailleurs, Anne Hidalgo, la mairesse sortante de Paris, est largement en avance là, à l'issue de ce premier tour. Et j'ai cru comprendre que le premier ministre Édouard Philippe remet en question la tenue du second tour de cette élection. Est-ce que c'est exact? Et si oui, est-ce que c'est une admission du fait qu'au fond, on s'est un peu trompé sur celle-là? On aurait dû, pour être plus cohérent, annuler ou suspendre cette élection?
Bien sûr. Alors, c'est un grand débat politique. Aujourd'hui, en fait, il faut revenir à l'origine. Emmanuel Macron, jeudi soir, commence à prendre des mesures. Les municipales sont accélérées. Mais ce qui se passe vendredi et samedi dernier, c'est-à-dire que les chiffres sont extrêmement alarmants en termes de propagation du virus, de nombre de cas, de nombre de décès, de nombre de cas très graves. Et Édouard Philippe, après des discussions, enfin Emmanuel Macron, Gérard Larcher, le président du Sénat, et le président de l'Assemblée nationale ont discuté. Certains ont voulu maintenir les élections, donc Emmanuel Macron, qui semblerait ait voulu les annuler, a dû faire face à ça et les a maintenues. Et on n'a pas compris effectivement certaines mesures de confinement, c'est-à-dire ou de mesures d'arrêt, vous l'avez dit, les bars, les boîtes de nuit, les clubs, et alors laisser aller les gens voter, alors qu'on avait aussi recommandé aux personnes de plus de 70 ans jeudi soir par le chef de l'État de ne pas sortir ou du moins de restreindre drastiquement ces déplacements.
Donc, oui, mais ce sont eux qui vont voter, hein, souvent, les premiers. Oui. C'est ce qu'on dit des élections d'hier. C'est beaucoup de gens dans ces tranches d'âge-là qui se sont déplacés pour aller voter, puisque oui. Ça les intéresse. Et donc, là, il y a un risque évident, non?
Il y a un risque évident. Ça, on vous le dira dans quelques jours, parce qu'on sait que le virus met 5 à 10 jours pour se déclarer. Et ça dépend des patients. Hein. Mais effectivement, là, il y a eu un gros problème, parce qu'on n'a pas compris certaines mesures et cette autorisation d'aller dans les bureaux de vote. On nous a promis des moyens drastiques, du gel, vous savez, du gel hydroalcoolique, on nous a promis des distances de sécurité. Mais comment voulez-vous organiser ça sur 36 000 communes en France? C'est très, très, très compliqué. Donc, il faut pas. On a mis en place la distanciation sociale et d'un autre côté, on fait voter le premier tour. Mais vous l'avez dit, le second tour aujourd'hui, si Emmanuel Macron, ce soir à 20h, annonce le confinement total, ce qui voudrait dire que les gens vont être... Ça va être une mesure coercitive. Les gens seront obligés de rester chez eux. Le second tour ne se tiendra jamais et la Constitution française est claire. Constitution française, elle dit qu'une élection municipale doit se tenir à une semaine d'intervalle, un dimanche. Donc vous imaginez bien que nous devrions tout recommencer dans quelques mois parce qu'aujourd'hui, je suis incapable de vous dire combien de temps nous allons rester confinés en France. L'Italie, vous avez dû voir, et j'invite les auditeurs de Radio-VM à aller voir les vidéos en Italie où les Italiens sont confinés et se mettent à chanter tous les soirs à 18h dans les villes pour se donner du courage, hein, c'est ça, c'est vraiment se donner du courage. Donc ici, la situation est compliquée et je vais dire aussi quelque chose qui est important. À Paris, nous avons vu des scènes assez effrayantes dans le sens où dimanche, hier, donc il faisait très très beau, et samedi, les gens étaient dans les parcs. Les parcs étaient pleins, les marchés étaient pleins de gens.
Comprend mieux le ton du premier ministre Philippe qui disait je pense que certains n'ont pas compris le message, c'est contre nature pour nous Français, mais je vous demande de cesser de vous rassembler comme ça. Nicolas Vidal, oui. Au moins il y a une bonne nouvelle dans ça, c'est qu'on vous aura à disposition puisque vous êtes pris chez vous. Alors, reparle dans les prochaines semaines, sans doute, peut-être la semaine prochaine. Portez-vous bien, tenez-vous à distance, hein, des
Merci
autres.
Merci beaucoup, Nick. Bonne journée à vous et courage.
Allez. À une prochaine. La question de l'économie. se pose. On a vu Frédéric Lapointe, le célèbre monsieur Peter Sergakis à Montréal, ce propriétaire de très nombreux établissements depuis de longues années. Il s'exprime sur toutes sortes d'enjeux qui touchent la gestion de ces établissements. On se souvient de ses sorties, notamment lorsqu'il fut question d'interdire la cigarette dans les bars et les restaurants. Monsieur Sergakis prédisait une catastrophe, la faillite générale. Bon, ça ne s'est pas produit. Hier, monsieur Sergakis, qui est néanmoins un porte-parole, là, et qui est assez crédible, ou en tout cas respecté, s'inquiétait beaucoup des mesures mises de l'avant par le gouvernement Legault en ce qui a trait au restaurant. Il dit, écoutez, on va faire faillite, on pourra pas payer nos employés. Est-ce qu'il est réaliste, Frédéric Lapointe, de penser que l'État, les deux, dans ce cas-ci, Ottawa et Québec, pourront compenser adéquatement les gens qui vont être touchés? Parce qu'il y a un paquet de gens là, qui n'ont pas d'emploi aujourd'hui, qui ne travaillent pas et qui ne savent pas s'ils vont être payés à toute fin pratique. Hein, on en est là, là.
Oui, la baisse du taux d'intérêt, paradoxalement, a envoyé un signal de panique sur les marchés. Lorsque les banques centrales prennent des mesures extraordinaires, les gens ordinaires comprennent que la crise est plus grave que prévu et sortir des marchés. Je fais le lien avec M. Sergakis. Pour comment? C'est que au final, ce sont les banques qui vont tirer la plug, si vous me permettez l'expression, sur les entreprises, sur les individus qui ne peuvent pas payer leur hypothèque, etc. Et donc, ultimement, il y aura certainement, je pense l'avoir entendu pour les États-Unis, des mesures bancaires, pas fiscales, mais financières, pour que les banques patientent et n'entraîne pas dans la faillite l'ensemble des entreprises ou n'entraîne pas des saisies hypothécaires qui, effectivement, peuvent avoir des effets en cascade très importants sur l'économie.
En haut, là, au début de la file de domino, oui. Là, on dit à celui qui finance, oui. Attendez votre hypothèque, celui qui loue.
et quand vous entendez la Banque centrale américaine dire « nous allons intervenir à coût de 500 ou 700 milliards pour racheter des obligations », au fond, c'est pour donner un ballon d'air financier aux banques pour leur permettre de ne pas rappeler leurs prêts et éviter ainsi d'avoir un effet en cascade là, sur l'économie.
William Corbatly, là-dessus, l'économie. La crise est à nos portes? Puis est-ce que des gens vont payer le fort prix? Est-ce que le filet social peut récupérer tout le monde là-dedans? Là?
Bon, en fait, je veux retourner à la politique. Et là, une critique au gouvernement Legault par rapport à ce sujet spécifique, par exemple.
Enfin une critique.
Bon. Au niveau fédéral, on a vu tout de suite que le gouvernement Trudeau a créé un fonds de 1 milliard de dollars là, pour aider toutes sortes de monde, incluant entreprises et autres, pour passer à travers la crise. La BDC déjà a donné avec une application en ligne pour aller jusqu'à 100 000 $ pour donner un prêt pour un fonds de roulement pour les différentes entreprises. Alors maintenant, les mesures de M. Legault sont... au niveau fédéral aussi, au niveau du chômage, dès le jour 1, on peut bénéficier du chômage aussi, pour ceux qui sont mis à pied à cause de tout ce qui arrive. Là. Maintenant, au niveau provincial, OK, là, on nage dans un surplus. Je vais récupérer la bonne gestion financière libérale. On est dans un surplus à cause de la bonne gestion financière du gouvernement libéral précédent. Alors, peut-être c'est le temps de dire, OK, on va fermer les restaurants, on va arrêter toutes sortes de choses, mais comment on va aider ces entreprises-là financièrement pour passer à travers cette crise? Est-ce qu'on va utiliser ce surplus-là pour redonner l'argent aux Québécois? Dans les poches de Québécois, c'est la phrase favorite de M. Legault. Alors, c'est ça. Jusqu'à maintenant, là, j'ai rien entendu de comment financièrement on va aider les gens.
Continuons là-dessus, Frédéric Lapointe, avant de jaser avec un autre Frédéric Bérard qui va nous expliquer un truc ou deux dans un instant. Vous n'avez pas trouvé ça bizarre, vous, le budget? Finalement, à toute fin pratique, quelques heures avant qu'on change de monde, on est dans une autre dimension. On sent qu'on se lance dans une aventure économique coûteuse, sinon ruineuse. Est-ce qu'on savait ce qui s'en venait? Est-ce qu'on a voulu annoncer de bonnes nouvelles, sachant fort bien que finalement tout ça allait tomber à l'eau quelques heures? C'est un peu étonnant, non?
Je pense que les bonnes nouvelles ne sont pas tombées à l'eau.
Je parle du budget du gouvernement du Québec,
fait,
évidemment.
Tout à fait. Et je pense qu'ils ont voulu éviter que la question de la pandémie domine la couverture médiatique du budget, raison pour laquelle ils ne l'ont pas récupéré politiquement dans le budget. Je pense qu'ils savaient très bien ce qui s'en venait.
Mais on disait déjà que les prévisions de croissance, par exemple, étaient très optimistes du ministre Girard, 2 % les experts parlaient de 1, 1,5 % en imaginant que la COVID-19 pourrait avoir un effet, mais on n'était pas les deux pieds dedans comme aujourd'hui.
Oui, bien, on doit savoir qu'un budget ne se prépare pas la semaine de sa présentation. Hein, l'encre est sèche sur tous les documents, j'imagine 2 semaines avant même qu'il soit présenté, et la réflexion y menant, c'est les 2-3 premiers mois qui précèdent. Et donc, j'imagine que la situation suivante, c'est présenter au gouvernement. On a un budget prêt, et là, il y a de la nouvelle incertitude. Alors, est-ce qu'on présente le budget tel qu'il a été imprimé et, ou l'encre séchée? Et je pense que la réponse a été, ben oui, on va le présenter, on va pas parler de la pandémie. On a des choses politiquement qu'on souhaite annoncer. On veut le bénéfice politique de ça. D'ailleurs, c'était assez difficile de critiquer ce budget à plusieurs égards. La seule critique...
Alors, vous reconnaissez donc qu'il y a une forme de calcul politique quand même, là. C'est-à-dire que, sans accuser le gouvernement...
Il y a des contraintes liées à la préparation du budget. Ils ne l'ont pas reporté. Ils auraient pu le reporter. Donc, ils ont choisi de le présenter parce que, de leur point de vue, c'était un bon budget. Et de fait, il a fait l'objet de commentaires dans toutes sortes de directions. Hein. On s'est mis à parler de social-démocratie caquiste. Ça fait plutôt sourire, mais c'est vous dire que le budget avait quand même une signification politique en soi, en dehors de la situation de pandémie. Et je pense que le gouvernement n'a pas voulu que la pandémie obscurcisse son message budgétaire.
On s'est posé une question technique en préparant cette émission. Vous entendez, chers auditeurs, comme moi, François Legault qui ordonne la fermeture des lieux publics, par exemple, ou qui demande aux uns de faire ceci, aux autres de faire cela. Nous allons vérifier auprès de Frédéric Bérard, qui est notre expert de ce genre de questions. Bonjour Frédéric Bérard, d'abord.
Bonjour Nick Payne, d'abord.
Oui, vous êtes en confinement, vous aussi, hein, quelque part en Abitibi, je crois, ou...
Saint-Michel-des-Saints, mais moi, je pratique la distanciation sociale depuis plusieurs années déjà, donc...
Oui, c'est ça, vous êtes un ermite.
J'ai beaucoup d'entraînement, moi.
Oui, c'est ça, exactement. Misanthrope, va. On a quelques instants seulement pour vous parler. C'est ça qu'on voulait savoir. Est-ce que François Legault a un réel pouvoir ou si tout ici est une question de leadership et de symbolique? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va aller voir, par exemple, Peter Sergakis pour lui dire, là, il y a trop de monde dans ton restaurant, ou se présenter dans un gym et dire, mais vous êtes ouvert, vous devriez être fermé? Est-ce que François Legault a une autorité effective, réelle, légale, constitutionnelle peut-être dans ce domaine-là?
Ben, légalement et constitutionnellement, oui, il y a une compétence partagée ici, hein, parce que le fédéral peut agir en matière de pandémie. Le fédéral, de toute manière, a déjà le pouvoir en matière de droit criminel. Cela dit, Québec a une compétence aussi qui est très importante. Hein. C'est lui qui émet les permis de restaurant, de bar, et ainsi de suite. Et il peut évidemment la sortir de diverses conditions. Dans ce cas-ci, la condition, c'est là, tu vas fermer ça tout de suite. Et si c'est pas le cas, ben j'ai évidemment ce pouvoir-là, cette compétence-là, de te retirer le permis en question. Donc oui, c'est beaucoup plus que symbolique ici. Je ne crois pas que Legault et compagnie aient besoin, en tout cas j'espère qu'ils n'auront pas besoin de jouer à la police. J'espère que le gros bon sens, la simple logique et l'humanisme vont l'emporter ici.
Ouais, en vous posant la question, on présumait pas là, d'une délinquance générale, mais on se demandait comment ça fonctionne,
oui,
en fait.
Ben, en fait, vous avez raison, parce que je ne serais pas surpris qu'il y en ait certains qui souhaitent tirer profit de la malédiction actuelle et de demeurer ouvert. Ça me semble assez clair. Mais non. Alors, si jamais c'était le cas, par la régie, en fait, dans ce cas-ci, là, des jeux, des alcools, ils changent de nom à chaque 8 mois. Là, je ne sais pas quel est le nouveau nom en question, mais toujours est-il que cette même régie-là pourrait faire l'objet de plaintes et on pourrait retirer les permis en question.
Frédéric Bérard, vous êtes aussi, vous êtes chroniqueur, vous émettez des points de vue, vous portez un regard presque sociologique parfois sur notre monde. J'ai envie de vous demander, puis ça va nous permettre de faire la transition en studio ici vers ce sujet-là. Qu'est-ce que vous avez pensé? Qu'est-ce que dit, d'après vous, sur notre monde? Si ça dit quelque chose, hein, peut-être que c'est pas ce qu'on pense, mais les bousculades pour acheter du papier de toilette au Costco, là, et ce genre de mouvement-là? Est-ce qu'on est dans une espèce de frénésie ou de, comment dire, je cherche le mot, là, de fébrilité devant l'état actuel des choses, ou est-ce qu'on montre à travers ça autre chose sur notre société? Est-ce que c'est plus profond que ce qui n'y paraît à première vue?
Ben, c'est sûr que l'avènement des médias sociaux a transformé la donne. Hein. Il suffit d'un seul bozo là, qui nous...
Il montre des photos de tablettes vides.
Umberto Eco nous l'a bien dit à quel point, qui était beaucoup plus sociologue que moi par ailleurs, à quel point les médias sociaux ont métamorphosé la dynamique sociale. Il suffit d'un bozo avec qui se prenne en photo avec ses 800 papiers de toilette et puis là tout le monde va se garrocher et ainsi de suite. Mais ceci dit, ça reste quand même d'une part une minorité. Je pense pas que la majorité de la population soit allée se garrocher chez Costco en se donnant des tapes à la gueule pour aller ramasser le dernier cotonnel. Et l'autre chose qu'il faut pas oublier, c'est que c'est certain que dans n'importe quelle crise du genre, au sens très large, il y a toujours un certain mouvement de panique qui est irrationnel. Et vous me faites penser, je m'attendais pas à cette question-là du tout, mais rappelez-vous à l'époque quand George Orwell avait déconné à la radio en annonçant aux gens qu'il y avait des extraterrestres qui débarquaient et les gens se balançaient en bas du pont de San Francisco en disant non, c'est pas vrai, je vais pas me faire bouffer par un extraterrestre. Donc évidemment, tout ceci est un canular, mais ça pour expliquer que oui, il y a quand même...
Il y aura toutes sortes de réactions, oui, plus ou moins rationnelles. Il y en a qui sont parfaitement rationnelles aussi. Si on pense, par exemple, que le confinement s'en vient et qu'on veut être sûr d'avoir assez de ceci ou de cela, bon, ça se peut qu'on achète un peu plus quand on va à l'épicerie.
Ben voilà, ça va, mais moi, ce que je trouve un peu débile dans cette histoire-là, c'est que si vous achetez du papier de toilette à profusion, c'est que vous partez de la prémisse qu'il va y avoir une pénurie comme telle dans les supermarchés, mais c'est parce qu'à ce compte-là, il va aussi avoir une pénurie alimentaire. Donc, vous avez le choix entre manger le papier de toilette, oui. Et vous choisissez la deuxième option. Ben, en tout cas, libre à vous.
Il y a mon option, Frédéric, aussi.
Oui, vous irez voir sur le Facebook de William Corbett Lee. Il semble qu'il y ait des solutions intéressantes là, la pénurie de papier de toilette. Mais restons sérieux, s'il vous plaît.
S'il y a une pénurie qui m'inquiétait, si la SAQ fermait ça serait beaucoup plus grave.
Elle est toujours ouverte, hein, d'ailleurs. Donc,
mais le syndicat a recommandé sa fermeture et c'est peut-être une question de temps. Moi, en tout cas, je ne sais pas.
Mais c'est peut-être un service essentiel, ça, en ces temps de crise, pouvoir s'acheter du bon vin et puis...
Moi, il me semble que oui, un mois sans alcool, je l'ai déjà fait, là, mais 8 mois sans alcool, ça, je ne suis pas sûr.
T'sais. Ah non, vous seriez encore plus misanthrope que vous l'êtes déjà, Frédéric.
Le
temps nous manque. Retournez vous confiner et on vous parle une prochaine semaine. Merci de nous avoir éclairé encore une fois.
Mon téléphone reste ouvert malgré mon confinement, mais uniquement pour vous, Nick Payne.
C'est bien gentil, merci. À une prochaine. Frédéric Lapointe, la ruée vers le papier de toilette, ça vous dit quelque chose, vous?
On doit se féliciter que la panique se soit attachée au papier de toilette plutôt qu'à autre chose. Mais ça renvoie aussi à notre organisation économique. On est dans le « just in time ». Vous savez, les magasins n'ont pas d'inventaire. Les inventaires sont dans des camions. Et de fait, on peut se poser la question, est-ce que dans cette économie trop efficace, on est bien équipé pour ce genre de choc? Est-ce qu'il y a des greniers? Est-ce qu'il y a des entrepôts? Est-ce qu'on
a vite vu le fond de la tablette. Hein?
On voit vite le fond de la tablette. Pourquoi? Parce que entreposer, c'est un coût. Il y a un coût qui est jugé inutile par les entreprises et les consommateurs. Mais cela, jusqu'à ce qu'on fasse face à une pandémie ou à une fermeture des frontières ou à des événements extraordinaires.
On reverra peut-être nos processus dans ce cas-là. William Corbatli, vous vouliez nous faire une proposition politique, mais ne nous parlez pas de votre bidet sur Facebook.
Non, c'est fini. Bon.
On termine là-dessus.
Oui, en fait, c'est que il y a une façon que le fédéral, par exemple, s'il ne veut pas agir tout de suite, là, surtout au niveau des frontières, je pense que Frédéric l'a mentionné, c'est que on peut réserver de l'argent pour chaque corps policier d'une province, par exemple, et dire, on va vous donner l'argent et rassurez-vous que vous pouvez sécuriser les frontières, etc. Mm-hmm. De cette façon, on donne ça temporairement aux provinces et là, on leur donne l'argent. Ça, je pense, c'est une façon très, très facile et très coopérative, en fait, entre le fédéral et le provincial.
D'un point de vue de décentralisation, au fond, d'une certaine façon, on délègue.
Oui, mais juste temporairement, par exemple.
Frédéric Lapointe, Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. William Corbatelli, merci beaucoup. On ne manquera pas de visiter votre page Facebook.
Bon, c'est privé, en tout cas, là, c'est pas pour
plein de choses pertinentes là-dessus. Chers auditeurs, merci d'avoir été à l'écoute. Quoi que vous fassiez aujourd'hui, si vous êtes en confinement, on vous souhaite du beau divertissement quand même à la maison. À une prochaine, à lundi prochain.